Merci d'écouter Europe 1 ce mardi 21 mai. Et très bon réveil, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Toute l'actu de ce mardi 21 mai, c'est avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
La justice a ordonné hier soir la reprise des traitements de Vincent Lambert. Les soins avaient été interrompus hier matin. Ultime rebondissement qui divise la famille depuis une dizaine d'années. Emmanuel Macron se veut acteur et non spectateur de la campagne des européennes. C'est ce qu'il dit dans une interview donnée aux quotidiens régionaux à 5 jours du scrutin. Et puis la mort de Niki Lauda, le pilote de F1 autrichien, avait 70 ans. Jérôme Lacroix reviendra évidemment dans son journal des sports. L'alimentation et l'hydratation artificielle pour maintenir en vie Vincent Lambert auront donc été arrêtées quelques heures avant que finalement la Cour d'appel de Paris ordonne tard hier soir le rétablissement des traitements. C'est ce que demandaient les parents de cet homme de 42 ans, tétraplégique en état végétatif depuis un accident de voiture en 2008. Hier soir, une marche blanche avait été organisée depuis le ministère de la Santé jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. C'est là, aux côtés des avocats des parents, que les soutiens de Vincent Lambert ont accueilli la nouvelle, Romane Auquet.
Plusieurs dizaines de personnes attendent fébrilement la décision de la Cour d'appel de Paris. 22h30, c'est un oui, crie à la foule Maître Triomphe, avocat des parents. Les traitements vont reprendre, une explosion de joie. Camille n'a pas pu retenir ses larmes.
C'est marrant, mais en fait, Vincent, pour la plupart, on ne le connaît pas, mais on a suivi sa vie depuis des années. On a écouté sa maman, on a vu toutes les vidéos qui ont été postées. Et ce soir, je pense qu'on était tous très proches de Vincent, donc on était tous très heureux. Après, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que Vincent ait la vie la plus douce qu'il puisse avoir.
Désormais, ses soutiens réclament le transfert de Vincent Lambert dans un centre spécialisé pour handicapés. La clé de sa guérison, estime cette jeune femme.
Vincent pourra du coup faire les progrès dont il est probablement capable, mais qui sont empêchés depuis des années, puisqu'il ne reçoit pas les soins dont il aurait besoin, notamment les soins de rééducation pour la déglutition qui lui permettraient en fait d'améliorer sa situation.
Minuit passé, la foule se disperse mais ils resteront vigilants. Le CHU de Reims doit reprendre les traitements, ce que les avocats des parents de Vincent Lambert iront vérifier aujourd'hui.
Un reportage signé Romane Auquet pour Europe 1. Et notez que le neveu de Vincent Lambert, favorable à l'arrêt des soins, sera l'invité Nikos Aliagas à 7h45. Hier soir, il a dénoncé le sadisme pur du système médico-judiciaire. Emmanuel Macron ne veut pas laisser se disloquer l'Europe, menacée, dit-il, par les nationalistes, ses premiers ennemis. Le chef de l'État s'exprime dans un entretien accordé à la presse régionale où il défend son rôle d'acteur et non de spectateur dans la campagne des européennes. Le chef de l'État qui dit vouloir avancer sur la taxation commune du kérosène en Europe. Il a aussi plaidé pour taxer les entreprises les plus polluantes et mettre une taxe carbone aux frontières. Cette nuit, l'Assemblée nationale a donné son feu vert pour expérimenter durant 5 ans des ruptures conventionnelles dans la fonction publique sur le modèle du secteur privé.
Europe 1, il est 6h03.
Le témoignage ce matin sur Europe 1 d'un jeune de 25 ans, Jamel, qui n'osait pas dire à ses proches qu'il était homosexuel.
Oui, seulement un ancien petit ami, pour se venger de leur séparation, a décidé de le révéler sur les réseaux sociaux en contactant directement la famille de Jamel, ce qui a totalement bouleversé sa vie. La semaine dernière, la justice a décidé de condamner cet homme pour violation de la vie privée. Il va devoir verser 10 000 euros de dommages d'intérêt à Jamel. Ce dernier s'est confié à Pierre de Cossette pour Europe 1.
Il y avait des photos, des vidéos où on s'embrassait qui ont été prises dans un contexte privé. L'information, après, en moins de 24 heures, elle a fait tout le tour des réseaux. Et toute ma ville était au courant. Il a contacté ma mère par MMS. Enfin, il lui a envoyé clairement la vidéo où j'embrassais mon ex-copain. À ma cousine aussi, pareil, en expliquant que j'étais qu'une pute et qu'il estimait que ma famille devait être au courant à partir de ce moment. En sachant que moi, je suis issu de banlieue, d'une famille musulmane et que donc, d'être homosexuel chez nous, c'est un grand péché. Donc dès lors où le contenu a été balancé sur Instagram, moi, j'ai pas remis les pieds chez moi, en fait. C'était terminé pour moi. Et j'ai revu ma mère peut-être 2 mois après cette histoire-là, c'était plus comme avant, en fait. Les frères et sœurs, je les ai pas revus. Donc avec la famille, ouais, c'était catastrophique. Avec les amis, tout le monde, la plupart de mes amis m'ont tourné le dos. Et c'est très, très dur à vivre. Moi, ils savaient que j'étais dans le milieu du rap. Donc voilà, on sait tous, dans ce milieu-là, le rap, on n'est pas très tolérant avec les homosexuels. Et ouais, j'ai reçu énormément de menaces de mort. Il y a eu beaucoup d'appels à la violence. Il faut le lyncher sur les réseaux, c'est un PD, il faut le tuer. J'ai même pas de mots, je pense, pour expliquer la douleur que j'ai en moi, en fait.
Un témoignage recueilli par Pierre de Cossette et d'autres procédures sont en cours au pénal. La tour Eiffel, évacuée hier pendant plusieurs heures, doit rouvrir ce matin à 9h30. Un homme a escaladé le monument. Il est resté pendant plus de 6 heures sur la tour. À 21h30, des sapeurs-pompiers ont finalement réussi à le raisonner et à l'atteindre pour qu'il redescende en rappel depuis le troisième étage. 7000, c'est le nombre d'emplois que Ford s'apprête à supprimer à travers le monde. 10% de ses effectifs. En France, c'est l'usine de Blanquefort en Gironde qui emploie 850 personnes, qui est visé.
Le Festival de Cannes, Céline, ce sont aussi des films réalisés avec de tout petits budgets et qui ne passent pas inaperçus.
Oui, c'est le cas de celui de la comédienne révélée par Abdelatif Kechiche, Afsia Herzi. Elle y présente son premier long-métrage, Tu mérites un amour, sélectionné par la semaine de la critique. Et elle a tourné avec moins de 1000 euros, Virginie Salmen.
Elle le dit clairement, j'ai tourné avec mon argent. Afsia Herzi a compté les bonnes volontés autour d'elle, mais surtout des gens motivés. Elle ne pouvait pas se permettre des interruptions de tournage.
J'ai payé personne, parce que je pouvais pas. Tout le monde est venu bénévolement. Pas de costumière, pas de maquillage, pas de coiffure, pas de déco. Ce qui m'a marqué, c'était la solidarité des gens et la bienveillance des gens, des commerçants, qui m'ont ouvert la porte de leur établissement pour me laisser tourner une demi-heure, une heure, qui ont parfois aussi joué dans le film. Rentrez, vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Parce que pour un commerçant, c'est difficile quand même de laisser rentrer, même si on était une petite équipe, de tournage dans son commerce, parce que c'est quand même un commerce, et ça, j'oublierai jamais, quoi. Et voilà, et on se retrouve à Cannes, et c'est juste incroyable.
Et c'est elle, Afsia Herzi, qui tient le rôle principal. Elle a convaincu le comédien Jérémy Laherte, autre révélation de Kechiche dans La vie d'Adèle, qui a obtenu la Palme d'Or, de jouer le petit ami toxique qui vient de la tromper. Comme les autres, il s'est débrouillé pour trouver 3 fois 5 jours de libre pour tourner dans le quartier de Belleville à Paris, ce joli film sur la difficulté d'une trentenaire à surmonter une rupture amoureuse.
Reportage signé Virginie Salmen, envoyée spéciale d'Europe 1 à Cannes.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, une femme, vous savez, exceptionnelle à bien des égards, sauf peut-être un. En effet, Céline est une femme splendide, brillante intellectuellement, tendre au quotidien, généreuse dans l'étreinte. Le seul petit problème, c'est que lorsque alanguie sur l'oreiller encore tiède, on s'attendrait à ce qu'elle vous dise « Oh, c'était merveilleux ». Elle vous regarde droit dans les yeux et vous dit
« Oh, c'est génial !»
Moi, qui suis un éternel romantique, ça me désarçonne toujours un peu quand même.
C'est sûr. Europe 1.
Ah, moi aussi.
À suivre, c'est historique les amis, le fact-checking par l'histoire. Aujourd'hui, Fabrice Dalméda évoque la polémique Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump qui soutient des listes nationalistes européennes. La majorité considère sa présence en France cette semaine comme une ingérence. Or l'ingérence, pour les Américains, c'est une vieille habitude.
Bon réveil à tous, il est 6h07. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Nous faisons un point sur la météo, Céline.
Oui.
Très excitée ce matin, Céline.
Du tout.
Certainement par cette journée de transition avant le retour du soleil. Vous vous préparez à l'avenue du soleil.
Oui, effectivement, puisqu'il va briller largement demain et jeudi, avant le retour de la pluie par l'ouest pour vendredi. Alors aujourd'hui, on est encore entre les deux, avec du soleil ce matin pour le nord-ouest et près de la Méditerranée. On en aura aussi sur les Pyrénées. Nuages et brumes et quelques averses encore pour les autres. Et puis cet après-midi, il fera beau sur toutes les côtes. Ce sera un petit peu plus mitigé ailleurs, avec toujours ce risque d'averse, mais on se dirige quand même vers une amélioration. Et les températures grimpent. La moyenne cet après-midi, 18 à 25 degrés du nord au sud, avec un 20 degrés à Paris.
Merci Céline Evaroc.
Bon anniversaire Antoine de Maximi.
Oh, et oui. Bon anniversaire. On a la petite bougie.
Notre animateur, de J'irai dormir chez vous et qui adore dormir chez l'habitant. Mais vous, quel type de voyageur vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt grand luxe ou baroudeur? Eh bien, depuis ce matin 5h, vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Taco qui nous a envoyé un message très sympa. J'adore prendre le train tous les mois. Mon gros kiff, c'est de caler ma tête contre la vitre et de regarder le jour se lever sur la France avec vous dans mes oreilles, puis Nico Saliagas, pendant que tous les passagers dorment autour. Je ne comprends pas pourquoi les autres passagers dorment. Réveillez-les, faites-leur écouter.
Voilà. Enlevez les écouteurs, faites profiter tout le monde.
Exactement. Évidemment. Merci pour tous vos messages.
Et surtout, bon anniversaire, Antoine de Maximi.
Ah, j'adore cette petite bougie.
Il a travaillé sur Europe 1, vous savez.
Oui.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Plus qu'un journaliste sportif, il est la mémoire du sport français. Chaque matin, dans son journal des sports, Jérôme Lacroix rend hommage aux exploits les plus hors normes de nos athlètes. Ultra trail de 100 km sans ravitaillement, tour du monde à la voile sans assistance ou encore l'ascension des Varrocks par la face sud.
Plus aucun Français ne l'a fait depuis 1920. Mais oui, c'était Gaston Chevrolet.
Gaston qui n'est d'ailleurs jamais revenu. Bref, on passe au journal des sports. À la une du JDS, L'histoire commune se poursuivra la saison prochaine, Jérôme.
C'est par ces mots que le PSG a répondu hier à Kylian Mbappé, moins de 24 heures après la sortie médiatique du jeune footballeur qui a semé le doute sur son avenir, affirmant qu'il se dessinerait, je le cite, au PSG ou peut-être ailleurs. Communiqué du club hier soir, l'histoire commune se poursuivra la saison prochaine avec aussi une petite pique. Chaque acteur majeur devra prendre toute sa part dans le projet en œuvrant toujours pour le collectif. Bah oui, l'institution plus forte que les individualités. Et si d'aventure Kylian Mbappé était transféré au Real Madrid, par exemple, combien coûterait-il aujourd'hui? Eh bien, en ce moment, le prodige français, c'est tout simplement le joueur qui a la valeur marchande la plus forte au monde. Christophe Lepetit est économiste du sport.
On a des estimations qui sont de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros. Très certainement que l'indemnité de transfert serait record assez peut-être nettement supérieure au transfert de Neymar, c'est-à-dire supérieur à 220 millions d'euros.
Les Verts de Saint-Etienne vont changer d'entraîneur. Jean-Louis Gasset s'en va après deux saisons, raisons personnelles mais aussi divergences avec certains autres dirigeants. Gasset laisse les Stéphanois quatrième et qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Et puis ce soir, premier pré-barrage de Ligue 2 pour tenter d'accéder à la Ligue 1. Paris FC Lens, coup d'envoi 20h45.
On a rendez-vous avec les Bleus aujourd'hui.
Oui, 14h30, Jérôme. Didier Deschamps dévoile la liste des joueurs retenus pour disputer les trois prochains matchs le mois prochain. La Bolivie en amical, puis la Turquie et Andorre en éliminatoire de l'Euro. On pourrait voir arriver dans le groupe Clément Langlais, le défenseur de Barcelone, mais aussi Mike Maignan, 23 ans, le gardien de Lille, tout juste élu dimanche soir meilleur portier de la saison. Roland Garros et l'environnement un peu particulier des joueurs qui disputent en ce moment les qualifications. Ce sont les moins bien classés qui ambitionnent de rallier le tableau principal dimanche. L'ambiance est marteau-piqueur, perceuse. Le site est en travaux depuis de longues semaines, mais leur intensité diminue à l'approche de l'ouverture du tournoi. Un peu d'air pour le jeune grenoblois Corentin Denoli, 21 ans.
On a connu pire quand on s'entraînait, quand il y a eu la démolition du cours Philippe Châtrier, quand on prenait toute la poussière dans la tête, c'était moins sympathique. Franchement, c'est cool, peut-être que pour les étrangers qui débarquent, qui se disent « oula, c'est quoi ce bordel ?», ça va être un peu perturbant, mais pour nous, on a l'habitude, donc voilà.
Et les travaux s'interrompront pendant la durée du tournoi. Belle journée pour les Français. Hier, au premier tour de qualification, ils ont bien marché. 9 engagés, 8 qualifiés. À l'instant, un mot de basket NBA. Golden State se qualifie pour sa 5e finale NBA de suite. Ils viennent de battre Portland, 119-117.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Les images de sa Formule 1 en flammes en Allemagne ce jour d'août 76 avaient fait le tour du monde. Il était resté 50 secondes prisonnier de sa monoplace avant d'en être évacué aux portes de la mort. C'est l'épisode qui restera à jamais lié à la riche carrière de Niki Lauda, pilote autrichien. Sa famille annonce cette nuit son décès. Il avait 70 ans, sacré 3 fois champion du monde. Depuis un an, sa santé était fragile. Il avait subi en août 2018 une transplantation pulmonaire.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, nous donnons tout de suite la parole à l'historien d'Europe 1, Fabrice Almeida, qui revient sur la polémique Steve Bannon. La présence de l'ancien conseiller de Donald Trump est-elle une ingérence américaine dans la campagne des européennes? Les États-Unis vont-ils influencer les Français? Pas les journalistes en tout cas, pas vrai Gégé?
Treason, one of the most outstanding results.
Aucune influence, aucune ingérence. Listen to Fabrice Almeida.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, fait depuis quelques jours, on le disait, campagne en France pour le Rassemblement National avec de Marine Le Pen. Cette ingérence américaine est-elle nouvelle?
Mais en fait, ça a commencé avec la Révolution américaine. Elle a envoyé en France Benjamin Franklin, un de ses scientifiques les plus célèbres, pour trouver des soutiens. Et cela a marché. Mais c'est surtout lors de la Grande Guerre qu'émerge un milieu franco-américain. Un exemple, le très chic cercle de l'Union Interalliée, où se côtoient officiers américains et français et hommes politiques. Le maréchal Foch, le président dans les années 20, puis l'ancien président Gaston Doumergue dans les années 30. Et à la même époque, les grandes fondations des milliardaires Carnegie ou Rockefeller pèsent sur les politiques culturelles et sanitaires.
Et après la Seconde Guerre mondiale?
Alors là, c'est le règne de la CIA et de ses agents secrets comme Irving Brown, arrivé en France lors du débarquement en Provence en 1944. Après-guerre, à Paris, il finance les anticommunistes, comme le syndicat FO, qui fait scission avec la CGT en 1947. Il trouve des subsides pour le journal du socialiste Léon Blum, le populaire. Puis en 1950, il implante en France le Congrès pour la liberté et la culture, une association qui soutient les grands intellectuels intellectuels, comme le sociologue Raymond Aron ou le philosophe catholique Jacques Maritain.
Et Steve Bannon marque un tournant par rapport à ça ?
Ben oui, c'est la première fois qu'une personne non mandatée par le gouvernement américain prétend influencer nos élections. Alors, il y a eu une sorte de petit précédent à droite. Mm-hmm. Quand en 1994, Jimmy Goldsmith, vous vous souvenez, ce financier britannique, avait monté une liste avec Philippe de Villiers. Mais à l'époque, rien à l'échelle européenne. Et puis, il y a une autre nouveauté. L'américain Bannon prétend jouer les architectes de l'international nationaliste, mais sans rejeter la Russie. Mm-hmm. Et cela oui, est une vraie rupture avec un axe ancien des affaires étrangères américaines.
Merci beaucoup Fabrice Almeida. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font ce matin. Immersion au cœur d'un métier crucial, mais pas de tout repos.
Passez-moi les forceps, je vais peut-être pouvoir l'extraire du côlon.
Par où on passe?
Par voie rectale.
J'apporte le lubrifiant.
Pas le temps de lubrifier.
On a toujours le temps de lubrifier.
Infirmier, plus beau métier du monde pour les uns, sacerdoce pour les autres. À l'occasion cette semaine du Salon Infirmier, on vous propose de découvrir le métier de l'intérieur avec Bilal Latrache, président de la Fondation Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers.
Bon réveil à tous, il est 6h17.
Avec Europe 1.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Coup de théâtre hier soir, la Cour d'appel de Paris a ordonné le rétablissement des traitements visant à maintenir en vie Vincent Lambert. Décision en attendant qu'un comité de l'ONU se prononce sur le fond du dossier. Les avocats des parents de Vincent Lambert sont attendus ce matin au CHU de Reims pour constater la reprise des soins. Emmanuel Macron en une de la presse régionale à 5 jours de l'élection européenne. Le chef de l'État défend son rôle d'acteur et non de spectateur dans la campagne afin de ne pas laisser se disloquer l'Europe. Fin de citation. Enfin, l'ancien pilote de Formule 1, Niki Lauda, est décédé à l'âge de 70 ans. Il avait subit une double transplantation pulmonaire en août dernier.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 21 mai. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du Salon Infirmier qui se tient à Paris, porte de Versailles, pendant 3 jours. Infirmier, un métier qui visiblement fait rêver les jeunes, puisque sur les 8,6 millions de vœux recensés sur Parcoursup, 1 million concerne les écoles d'infirmiers. Bonjour Bilal Latrèche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de la Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers. Vous serez présent sur ce salon avec une actualité particulière cette année, donc le boom des inscriptions en école d'infirmiers. Comment expliquer cet engouement? C'est l'effet Grey's Anatomy, les séries américaines ont convaincu les jeunes du côté glamour de l'hôpital et du métier d'infirmier?
Alors, ce boom sur Parcoursup, il s'explique de diverses manières. Déjà, la suppression du concours de l'année dernière a été beaucoup médiatisée. Mmh. Donc, ça a permis justement déjà de communiquer sur la formation. Et derrière, ça a prouvé que les modalités d'admission étaient dissuasives pour l'étudiant, à la fois à travers leur coût, à la fois le facteur de la pénibilité qui a été supprimé, donc se déplacer sur place, engendrer des frais supplémentaires. Et donc, tous ces éléments-là, au final, ça a redonné de l'attractivité à la formation, mais aussi Parcoursup a permis de la lisibilité. Donc, 323 instituts sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'offre de formation est homogène sur le territoire et lisible pour les étudiants.
Alors, attractivité, sauf que je lis que les hôpitaux peinent à recruter des infirmiers. Il y a un paradoxe, là.
Tout à fait. Et le paradoxe, il s'explique aussi de diverses manières. De dire qu'aujourd'hui, former des infirmiers, c'est une chose, mais après, il faut aussi les fidéliser. La durée des carrières a baissé. Ah oui. Elle était à 10 ans, elle est passée à 7 ans. Est-ce qu'elle va baisser?
C'est extrêmement peu. Ah oui. 7 ans de carrière, c'est un métier qui épuise les gens. Qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, aujourd'hui, dans les services, on ressent de plus en plus de tensions, de manque de moyens. Les équipes, elles le disent par elles-mêmes, sont fatiguées. Elles ont besoin d'avoir un soutien, que ce soit dans la reconnaissance de leurs compétences, un soutien financier, un soutien humain.
Soutien financier, vous parlez d'une revalorisation des salaires?
Tout à fait.
C'est quoi les salaires? On va parler très concrètement aujourd'hui pour les jeunes qui voudraient faire infirmier. Mmh. C'est quoi le salaire quand on commence grade 1, échelon 1?
Salaire brut, c'est environ 1700 euros.
D'accord.
Ah oui, 1700 euros.
Et surtout, je crois que en plus, l'évolution n'est pas immense, parce que je crois qu'en fin de carrière, on arrive à 2700 euros, c'est les chiffres que j'ai trouvés. Au bout de 30 ans, j'ai lu.
Voilà. Il faut y arriver.
Il faut y arriver, et comme c'est 7 ans la moyenne.
Et pardon, autre question concrète, Bilal Latrèche, combien de temps dure la formation pour être infirmier?
3 ans.
3 ans, et les carrières ne durent que 7 ans, enfin pour certains, ne durent que 7 ans. Vous imaginez le rapport, quoi.
On appelle ça le durée de vie moyen d'un infirmier. Mm-hmm. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui étonne. Donc, ça s'explique par de la difficulté de. On va dire que c'est un métier qui épuise, qui fatigue. Et donc, il faut vraiment repenser aujourd'hui le modèle économique de cette profession.
On parle aujourd'hui aussi des infirmiers de pratique avancée. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça correspond?
Alors aujourd'hui, pratique avancée, c'est ben, au final, c'est un infirmier qui va pouvoir se spécialiser, avoir un diplôme de niveau master et donc qui va avoir des compétences élargies.
Il va pouvoir faire d'autres actes.
Tout à fait, il va pouvoir ben, renouveler des prescriptions, il va pouvoir prescrire des examens complémentaires, pouvoir faire des examens cliniques, conduire des entretiens. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie avancée. C'est vraiment
ça participe
élargi.
À valoriser le métier en fait pour attirer de plus en plus de vocations, vous pensez ?
Alors le mot vocation, c'est quelque chose sur lequel on est relativement sensible, parce que forcément quand on parle de vocation, on le rattache souvent à du bénévolat. Aujourd'hui non, c'est on combat un petit peu ce terme. Être infirmier, c'est une profession à part entière, c'est un service qui est rendu, mais c'est pas un service qui derrière et se justifie du bénévolat. Et donc, c'est un service qui mérite rémunération. Et donc, c'est vrai qu'on emploie de moins en moins ce terme de vocation.
On parlait tout à l'heure avec le docteur Ichoux de souffrance au travail. 4 syndicats d'infirmiers ont récemment lancé un observatoire en ligne, une plateforme pour recueillir la parole des professionnels. Ils sont incités à déclarer les problèmes qu'ils rencontrent pour évaluer et apporter une réponse au mal-être infirmier. Déjà, il y a un mal-être infirmier, des souffrances qui ne sont pas suffisamment déclarées aujourd'hui par les infirmiers.
En tout cas, il y a un mal-être et l'ordre a pu mener une enquête et les chiffres ont révélé qu'il y avait un mal-être au niveau de la profession. Là, nous, du coup, en tant que fédération étudiante, on a pu aussi mener une enquête en 2017, 14 000 réponses, 2 000 témoignages. Mmh. Et en tout cas, il y a également un mal-être chez les étudiants en soins infirmiers. Et donc, on constate que ce mal-être dans les services, ce manque de moyens se répercute directement sur l'étudiant à travers notamment son encadrement sur les lieux de stage.
Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour devenir infirmier ?
Et au final, c'est comme chaque professionnel de santé, il va falloir déjà avoir envie de faire cette profession, connaître qu'est-ce que c'est que cette profession, connaître la réalité du terrain, être prêt du coup à être empathique, à l'écoute, des valeurs qu'on peut retrouver dans beaucoup de professions en santé.
Un dernier mot sur l'affaire Vincent Lambert qui est à la une de tous les journaux ce matin. Quand on est infirmier, on se retrouve, j'imagine, relativement souvent face à des cas comme celui-là, en tout cas des cas proches de celui-là, il faut y être préparé psychologiquement. Être infirmier, c'est pas seulement le soin en lui-même, c'est aussi toute l'éthique qu'il y a autour.
Bien sûr.
Et ça, c'est compliqué. Quel est votre point de vue sur cette situation, par exemple ?
Vous l'avez très bien dit, il faut être préparé. C'est aussi pour ça qu'on a des unités d'enseignement, on a des cours sur
et
l'éthique.
Vous êtes préparé à ça, oui.
On
y a des
est
cours
préparé
d'éthique.
À d'accord. ça aujourd'hui. Et ce genre de, on n'est jamais assez préparé.
Bien sûr.
C'est aussi pour ça qu'il y a de la formation tout au long de la vie. Et c'est des situations vraiment où il faut être accompagné derrière.
Merci beaucoup Bilal Latrèche. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.
Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.
De vous les copains, continuez avec la météo de Céline Dacosta, mais le journal du Botticelli du News, David Doucan, parce que si je dis que David Doucan fait la météo, il va me taper sur les doigts.
Mais il pourrait.
Et la météo, un jour, on changera, on alternera. Ouais, un 1er allez, avril, on changera. Et la météo avec encore un peu d'instabilité aujourd'hui, avant demain, le retour du soleil.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Juste avant de retrouver le journal de David Doucan, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore des nuages et de la pluie,
oui.
Mais c'est transitionnel.
Oui, effectivement, ce matin. Oui, c'est une journée de transition, on va y venir. Surtout sur l'est du pays ce matin, les nuages et la pluie, l'Alsace, la Lorraine, et puis en descendant jusqu'au Massif central et au nord de la région Rhône-Alpes, couvert et pluvieux. Pas mal de brouillard du sud-ouest jusqu'en Bourgogne. Après dissipation de ces brumes, on aura des éclaircies. Pour un gros quart nord-ouest, de la Bretagne jusqu'en Île-de-France et des Pyrénées aux Alpes, là le soleil va briller assez généreusement ce matin. Côté température, les minimales sont comprises entre 6 et 13 degrés. Il en fait 8 à Lille, à Bordeaux, 13 à Paris et 16 à Toulon en ce moment.
Le mot que je cherchais était transitoire et non pas transitionnel peut-être.
Oui,
et cet après-midi,
Céline. On a compris. Eh bien, le soleil va briller généreusement sur toutes les côtes avec un vent assez sensible. Pour les autres, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies, peut-être encore de temps en temps une petite averse isolée. On aura aussi un risque orageux sur le relief du Massif central et des Alpes du Sud. Côté thermomètre, ça grimpe un 18 à 25 degrés en moyenne du nord au sud. Il en fera 19 à Brest, 20 degrés attendus à Paris et 25 à Nîmes. Et vous l'avez dit, le soleil, c'est pour demain.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où un sain divertissement à base de petits exercices de gymnastique zygomatique ne doit pas éclipser la qualité et le sérieux de l'information. Des analyses de fond.
Mais il faisait des très jolies chansons, Jacques Brel. Hein.
Des scoops mondiaux.
Moi, je vais vous dire où va partir Kylian Mbappé. Non, c'est pas vrai.
Enfin, des reportages sur le terrain, au plus près de l'action.
C'est un pouls de pubis, un morpion.
Oui, oui,
quoi.
Oui. Heureusement, côté investigation, vous pouvez compter sur les trois fantastiques. Politique, économie, médias. Ce matin, au programme notamment cette question. L'ENA va changer ? Oui. Mais à quoi va-t-il ressembler ? La mission sur la réforme de la haute fonction publique vient de livrer ses toutes premières orientations.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le journal de 6h30, c'est présenté évidemment par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Contre toute attente, la justice a ordonné hier soir la reprise des traitements de Vincent Lambert. C'est une victoire pour ses parents, un drame pour toute une autre partie de sa famille. Son neveu parle de sadisme, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Le président Macron est en campagne, il monte au front avec une interview ce matin à la presse régionale. Le chef de l'État dénonce une connivence entre nationalistes et des intérêts étrangers pour le démantèlement de l'Europe. Et puis c'est la fin d'une époque pour des millions de fans. Le dernier épisode de la série Game of Thrones était diffusé hier soir en séance de rattrapage au Grand Rex à Paris. Reportage à suivre.
Europe 1.
La décision est tombée hier un peu avant 23h. La justice a ordonné la reprise du traitement pour Vincent Lambert. Cela signifie que la procédure de fin de vie enclenchée hier matin a été interrompue. La famille se déchire depuis 10 ans. C'est donc un immense soulagement pour les uns, sa mère, son père notamment. Une décision synonyme de cauchemar pour les autres, comme son épouse ou son neveu François. On l'écoute.
Je suis totalement abasourdi, j'en reviens pas. Enfin, voilà. C'est du sadisme pur, moi je comprends pas qu'on puisse être aussi barbare avec son fils sans jamais se poser la moindre question, de savoir si éventuellement peut-être qu'il y aurait parmi tous ces gens un petit peu rationnels et tous ces proches de Vincent, il n'y aurait pas quelques personnes qui peut-être auraient un petit peu raison de penser ce qu'ils pensent par exemple. Non, ils sont du côté de la vie, c'est comme ça. On est tous à la base du côté de la vie, c'est normal, sauf que eux ils y restent et tout ce qui n'est pas eux n'est pas normal. Quoi. Voilà. Et s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut arrêter les traitements de Vincent, c'est peut-être pas parce qu'ils sont naturellement du côté de la mort, c'est peut-être qu'ils ont fait une réflexion tout simplement. Et que peut-être que les parents de Vincent pourraient essayer aussi à leur tour de faire une réflexion au lieu d'agir comme ils agissent. Quoi. Il faut qu'ils comprennent, les juges qui ont rendu cette décision, que concrètement, ils ont mis une cinquantaine de juges administratifs et européens des droits de l'homme, plus une quinzaine de médecins. Ils ont décrété que ces gens-là ne valaient rien et qu'eux, ils savaient. C'est ça concrètement qu'ils ont dit. Hein. C'est 3 juges judiciaires qui ont décidé de ça. Il faudrait qu'ils se rendent compte de l'importance de leur décision et de la responsabilité qu'ils prennent à faire ça. Et j'espère que s'ils ont pris une décision qui est aberrante et qui est cassée derrière, j'espère qu'il y aura des sanctions pour ces juges-là. Parce que je suis très en colère quand il y a des juges qui font ce genre de choses. Il y a un moment, on n'est plus vraiment dans le juridique, moi, je trouve.
François Lambert, le neveu de Vincent, au micro de Jeanne Bergaoui. Les avocats des parents de Vincent Lambert se rendront ce matin au CHU de Reims pour vérifier que la reprise des traitements est bien effective. L'un des deux conseils, maître Jérôme Triomphe, a déclaré, je cite, « On a gagné, c'est la remontada ». Fin de citation. La mère de Vincent Lambert, Viviane, a salué dans une formulation plus sobre une très grande victoire. Il a choisi une interview à la presse régionale pour faire campagne contre le Rassemblement national. Emmanuel Macron s'implique pleinement. Les élections européennes de dimanche prochain constituent un enjeu politique majeur pour lui. Avec nous, Jean-Rémy Baudeau. On comprend à la lecture de l'entretien, Jean-Rémy, que le chef de l'État joue gros.
Oui, Emmanuel Macron qui défend avec virulence son projet pour l'Europe. Dans les colonnes de nos confrères de la presse régionale, il tambourine « Je ne peux pas être spectateur ». Pour le président, cette élection est tout simplement la plus importante depuis 1979. En réponse aux questions des journalistes, il précise sa crainte de voir l'Europe se disloquer. Dans sa ligne de mire, les populistes européens et tout particulièrement le Rassemblement national, dont le projet n'a fait, selon lui, qu'affaiblir la France et diviser l'Europe. Emmanuel Macron, en véritable chef de parti, en tête de liste, qui sort de nouvelles propositions pour l'Europe, comme cette idée de convention fondatrice européenne après les élections. Il réitère par ailleurs des propositions sur l'immigration ou la protection de nos frontières. Il met l'accent sur la question écologique. Il dit vouloir aller plus vite et plus fort, notamment sur la taxation du kérosène. Au total, un Emmanuel Macron volontariste qui semble refuser les sondages qui donnent la liste Renaissance en deuxième position derrière la liste RN. « Je n'ai pas l'esprit de défaite », martèle le président. Un président plus que jamais en campagne.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, merci. Jean-Rémy a noté enfin que le journal La Voix du Nord a refusé de participer à cette interview parce qu'elle a été relue par les services de l'Élysée avant publication. Des discussions ont finalement débuté entre Google et le constructeur chinois de téléphone Huawei. Il s'agit de trouver une solution après que les États-Unis ont annoncé l'interdiction aux entreprises américaines de commercer avec une série de groupes étrangers, dont le géant chinois.
À suivre dans ce journal, la chute de l'extrême droite en Autriche. Tous les ministres populistes ont démissionné hier. À tout de suite.
Il est 6h34. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan. Certains scandales peuvent balayer un parti politique en 48 heures.
Oui, c'est ce qui est en train de se passer pour le FPÖ autrichien. Cette formation d'extrême droite gouvernait le pays au sein d'une coalition dirigée par le conservateur Sébastien Kurz depuis décembre 2017. Puis apparaît une vidéo vendredi dernier. Le vice-chancelier d'extrême droite est piégé. Corruption, collusion avec des intérêts russes. Il est débarqué du gouvernement et hier, tous les ministres du FPÖ ont été contraints de démissionner alors qu'on découvrait de nouvelles révélations. Hélène Kohl.
En trois jours, le parti a déjà perdu 5 points dans les sondages et l'opération déballage continue. Hier, un riche entrepreneur autrichien a raconté avoir lui aussi été approché par le FPÖ pour lui faire des dons illégaux. La demande a été faite en personne par le chef du parti, Hans Christian Strache, accompagné cette fois de celui qui allait devenir le ministre de l'Intérieur, Herbert Kickl, une personnalité extrêmement controversée en Autriche depuis des années. Proche des milieux identitaires, il est soupçonné d'avoir profité cet hiver de ses fonctions de ministre pour protéger certains de ses amis néo-nazis et livrer des informations confidentielles à la Russie. Hier, Kickl a encore essayé in extremis de placer l'un de ses hommes à la tête de l'Office national de la sécurité. Trop c'est trop, pour reprendre les mots du chancelier Kurz, il l'a renvoyé, provoquant le départ en bloc des autres ministres nationalistes et la crise pourrait rattraper le jeune chancelier. En Autriche, on comprend de moins en moins comment il a pu prétendre bien gouverner aussi longtemps avec le FPÖ.
Hélène Kohl pour Europe 1. Des élections anticipées auront lieu en Autriche au mois de septembre. D'ici là, des experts seront nommés au gouvernement pour les affaires courantes. Le pilote de Formule 1, Niki Lauda, est décédé hier. Il avait 70 ans. Niki Lauda était une légende de la course automobile, connue entre autres pour son accident en 1976. Au volant de sa Ferrari, il était resté près d'une minute dans le cockpit en flammes avant d'en être extrait par trois concurrents. Et maintenant, Game of Thrones, dernier épisode de la série, diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, et séance de rattrapage hier au Grand Rex à Paris pour les fans les plus ultras. Parmi eux, Jean-Gabriel Bourgeois.
Un générique mythique pour l'ultime épisode d'une série culte. Installés sur les fauteuils du Grand Rex, Lucas et Camille ont réussi toute la journée à esquiver les spoilers, c'est-à-dire à ce que l'on ne leur dévoile pas l'intrigue.
Moi, j'ai évité tous les réseaux sociaux pour ça.
J'ai pas touché à mon téléphone, ce qui est plutôt bien.
J'ai pas été sur les réseaux sociaux de toute la journée, ce qui est un comble étant donné que je suis community manager, donc c'était un peu dur.
1h15 plus tard, tout le monde ressort la tête pleine de dragons, de chevaliers et de magie, mais aussi de désillusions. Près de 10 ans d'aventure médiévale fantastique s'achève, un coup dur et un scénario qui ne fait pas l'unanimité.
Je suis très triste que ça se termine. C'est la fin d'une série mythique qui a démarré avec des livres absolument fantastiques.
C'est pas une mauvaise fin, c'est pas une grande fin non plus.
On va faire notre deuil parce que cette saison 8 a été parfois décevante.
Enfin, c'était pas forcément la fin qui était attendue, temps, mais on faisait beaucoup de pronostics et voilà.
Fantastique.
Oui, c'est très émouvant.
Ça, et c'est ce qui fait plaisir, on s'y attendait pas vraiment. Donc c'est un peu Game of Thrones, c'est le côté imprévisible.
Imprévisible comme le nom de la personne qui conquiert finalement le trône de fer. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher le plaisir des derniers fans qui n'auraient pas vu l'épisode.
Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Vous connaissez-vous la fin de la série?
Je la connais, mais je ne la dirai pas. Un respect pour nos auditeurs.
Bah
évidemment, je vais tout regarder. Mais va.
Vous savez d'ailleurs comment on dit spoiler en bon français? Divulgacher. Bravo Mathieu, vous suivez l'actu.
Un mot d'origine
québécoise, bien
québécoise.
Sûr.
Merci, c'était le journal de David Doucan, un journaliste hyper méticuleux dont la langue ne fourche quasiment jamais, sauf quand il se trouve face à Céline Dacosta. Céline qui le trouble énormément et lui inspire de cruels lapsus. Oh.
Les protestations d'associations féministes, une pétition.
Léger petit lapsus.
Non, pas du tout.
Oui, une pétition. Lorsqu'on parle de pétition féministe, je crois qu'il est préférable qu'on passe rapidement à la météo. D'autant plus que tout à l'heure, nous retrouvons David dans le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, car vous savez que David officie aussi avec Nikos Aliagas à 8h.
Enfin, surtout.
C'est vrai.
Voilà.
Et une petite vacherie. Mais c'est bien normal parce que nous allons assister à deux nouveaux lapsus, ce qui fera un total de 3 lapsus en une seule matinée pour l'incroyable David Doucan. Rendez-vous tout à l'heure dans le débrief.
Vous allez pas me les mettre sur le dos, ceux-là aussi, j'espère.
C'est lui
tant que c'est les lapsus.
Tout seul.
Ouais.
Céline Dacosta, un point sur la météo.
Oui. Alors, le soleil va revenir progressivement. D'abord sur le nord-ouest ce matin et des Pyrénées à la région PACA. Nuages éclaircis pour les autres après dissipation de quelques brouillards. On n'est pas à l'abri aussi de quelques averses. L'amélioration continuera cet après-midi avec du soleil sur les côtes. Des nuages, des éclaircies et des averses possibles pour les autres. Et puis, on aura aussi un risque d'orage sur les Alpes du Sud et le Massif central. Côté thermomètre, ça va grimper, devenir assez doux, hein, puisque la moyenne cet après-midi ira de 18 à 25 degrés du nord au sud. On attend 20 degrés à Paris.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques jettent sur l'actu la lumière crue de leur sagacité.
J'ai rien compris du tout.
Mais nos auditeurs, oui. Au programme aujourd'hui, notamment cette question, l'ENA devait disparaître. En fait, elle va être modifiée, mais qu'est-ce qui va changer? Michael Larmont a déjà quelques infos.
Un très bon réveil à tous, il est 6h41.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Contre toute attente, la justice a ordonné hier soir la reprise des traitements de Vincent Lambert. Ça signifie que la procédure de fin de vie déclenchée hier est interrompue. La mère du patient a parlé d'une très grande victoire. Son neveu, à l'inverse, favorable à l'interruption de ce qu'il considère être un acharnement thérapeutique, a qualifié sa décision de pur sadisme. Le président Macron est en campagne. Il monte au front avec une interview ce matin à la presse régionale. Le chef de l'État dénonce une connivence entre nationalistes et des intérêts étrangers pour le démantèlement de l'Europe. Europe dont il pense qu'elle peut disparaître après ces élections européennes. Le président de la République parle d'un risque existentiel. Enfin, le pilote de Formule 1, Niki Lauda, est décédé hier. Il avait 70 ans. Niki Lauda était une légende de la course automobile, connue entre autres pour son accident en 1976 au volant de sa Ferrari. Il était resté près d'une minute dans le cockpit en flammes avant d'en être extrait par trois concurrents.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont la clé de voûte de tout le dispositif éditorial de cette station. Entre eux règne une solidarité rare. Comme on a pu le constater hier, alors qu'on évoquait l'absence de Mickaël Darmon pour cause de grève des taxis, son collègue Axel de Tarlé glissait cette petite réflexion.
Oui, Mickaël n'est pas là.
Officiellement, il n'a pas eu de taxi.
Mais t'es venu comment, toi ?
Bah, en taxi, je sais pas.
Officiellement, il a pas réussi à en avoir.
Enfin, t'en trouves toujours, hein.
On t'embrasse, kissou, kissou, Mickaël !
Voici les trois fantastiques dans la joie et la bonne humeur. Et Baroque pour les médias.
Sympa.
Axel de Tarlé
en fait,
pour l'économie.
En fait, j'avais des VTC, moi, qui n'étais pas
ah,
en
bah oui.
Voilà, c'est trop chou. Voilà. Et Mickaël Darmon, qui est là ce matin pour la politique. On commence justement avec vous, Mickaël. Alors que nous sommes en pleine campagne électorale, ce qu'on appelle l'acte 2 du quinquennat est lancé, en particulier sur un domaine symbolique, la haute fonction publique. Vous nous révélez les premières pistes de cette réforme ultra sensible.
Et oui, on ne le voit pas encore, mais ça pourrait être bien la réforme la plus profonde du quinquennat. Changer la culture des hauts fonctionnaires de manière à refonder toute la relation entre le peuple et les élites. Souvenez-vous, c'était l'aveu même du président de la République en novembre sur le Charles de Gaulle face à TF1. Il avait avoué avoir échoué à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants, disait-il lui-même. Eh bien, les grandes lignes de la réforme sont arrêtées, seront publiques dans quelques jours. Ce que je peux vous dire, ce qui va changer, c'est le mode de recrutement, plus ouvert aux différentes strates de la société, de manière à refléter la diversité française. 80% des élèves de Polytechnique aujourd'hui sont issus des catégories sociales supérieures. Ensuite, décloisonner, ce sera le maître mot. Et pour cela, la nouveauté. Les futurs hauts fonctionnaires, déjà affectés à un corps, auront en formation pendant un an environ un tronc commun, avec des stages en alternance sur différents terrains. Objectif, mieux se connaître, créer des mobilités ensuite entre les différents secteurs de la haute fonction publique qui comptent aussi commissaires de police, directeurs d'hôpitaux et de collectivités. Enfin, les parcours de carrière seront également réformés.
Alors, Polytechnique a été créée en 1794, l'ENA a 65 ans, mais jamais la haute fonction publique n'a été réformée malgré de nombreux rapports. Pourquoi cette fois ça serait la bonne, Mickaël ?
Eh bien parce qu'il y a fait une volonté politique et une urgence. La crise des Gilets jaunes a symboliquement pointé des élites devenues repoussoires et symboles d'un État vivant accusé de vivre en caste et dans l'entre-soi. Et pour mener à bien cette mission, bien Frédéric Thiriez, grand connaisseur de la machine de l'État, ancien président de la Ligue de foot professionnel, a été chargé par le président et les premiers ministres de repenser un peu la première division des fonctionnaires en phase avec le monde et notre époque. Plus question donc par exemple de décider de manière pyramidale, mais il faudra favoriser le dialogue et la concertation. Et bien alors c'est à ce moment-là qu'on comprend à quel point c'est très ambitieux quand même, parce que il va falloir quand même réformer tout simplement la mentalité de cette monarchie institutionnelle qui est la 5e République, avec un appareil d'État qui est habitué à tout centraliser depuis des siècles. Alors il faut au moins un Frédéric Thiriez, expert en joueurs de haut niveau, pour former un peu les futurs Zidane de la fonction publique. Faute de quoi, les Français ressortiront et les cartons et les gilets jaunes.
Les cartons rouges. Merci Mickaël Darmon pour cette analyse politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Alors, mauvaise nouvelle, Ford annonce la suppression de 10% de ses emplois dans le monde. Le constructeur américain justifie sa décision par la nécessité d'investir dans le moteur électrique.
Ah oui, dur, la transition écologique. Bah, il faut dire que pour tous nos constructeurs, il y a un siècle d'expertise en matière de moteur thermique qui est jeté à la poubelle. Donc oui, Ford a annoncé hier qu'il allait supprimer 7000 emplois dans le monde. Alors en France, on peut dire que c'est déjà fait, puisque Ford n'avait qu'une usine, c'est celle de Blanquefort en Gironde, qui effectivement fabrique des boîtes de vitesse. Et dans le moteur électrique,
il n'y a pas de boîte de vitesse.
Donc on ferme.
Oui, mais il va falloir quand même des compétences, des salariés de demain pour construire ces voitures électriques. Et donc, il va falloir créer de nouveaux emplois.
Alors certes, mais le problème, c'est que la voiture électrique, le moteur électrique, c'est quelque chose de très simple. On l'a déjà dit ici, il y a 6 fois moins de pièces dans un moteur électrique. Un moteur électrique ne vibre pas, donc il y a très peu d'usure. C'est un jeu d'enfant, un moteur électrique à fabriquer, en fait. Et c'est ça toute la crainte de nos constructeurs automobiles, c'est qu'on le sait très bien, la valeur ajoutée rajouter dans la voiture, comme elle sera plus dans le moteur, qui est un jeu d'enfant. Mmh. Elle sera dans les batteries, qui sont fabriquées en Asie. Et elle sera également dans tout ce qui est connecté, l'intelligence, les données. Tout ça, ça vient de la Silicon Valley. Comme le disait hier un spécialiste de l'automobile, il disait, nous, en Europe, on va fabriquer la moquette. Vous voyez, donc, vous voyez, on a un siècle d'expertise dans l'automobile qui risque de partir en fumée. Et c'est pas rien. L'automobile, on a coutume de dire que c'est 9% de l'emploi en France. Et c'est pareil, c'est des centaines de milliers d'emplois en Europe. J'ajoute à ça que l'automobile, le moteur à explosion qui pollue, ce sont des recettes fiscales. On l'a appris hier, les échos. Le bonus-malus, ça a rapporté un demi-milliard d'euros aux caisses de l'État. Les taxes sur l'essence, à chaque fois que vous vous faites un plein, ça rapporte 34 milliards d'euros chaque année aux caisses de l'État. C'est le budget.
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Excel.
Voilà,
moment,
bah, si l'année prochaine, on aura plus. Mais oui, mais l'année prochaine, quand on aura la voiture électrique, on n'aura plus le beurre. Donc, si vous voulez... L'État, ça veut dire, va perdre des dizaines de milliards d'euros de recettes fiscales et dans l'emploi, on va perdre des centaines de milliers d'emplois. Donc, il y a un vrai sujet quand même sur cette transition écologique, son coût à la fois en termes de recettes fiscales, en termes d'emploi. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a une sacrée prise de conscience, même au niveau européen, puisque pour les Allemands, qui étaient toujours rétifs, vous savez, à cette idée de grand barnum européen, s'associent et soutiennent pleinement cette initiative pour qu'on fasse en Europe le fameux Airbus des batteries pour essayer de reprendre la main et d'être à l'offensive sur cette voiture électrique.
Merci beaucoup Axel de parler, même si tout ça est du coup un peu inquiétant sur le plan de l'emploi. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ?
Je vais essayer de vous faire retrouver un petit sourire.
Oh,
parce que je vous propose qu'on s'offre une petite comédie de Rémy Besançon. Ah. J'avais adoré Le premier jour du reste de ta vie et je n'avais pas encore vu Nos futurs programmés ce soir sur France 4 à 21h et je n'ai pas été déçue. C'est l'histoire de Yann qui, le soir de son anniversaire, décide de reprendre contact avec son meilleur ami d'enfance, si c'était un peu éloigné. Des retrouvailles assez joyeuses, donc entre Yann, fils à papa coincé, et Thomas, un peu adolescent retardé, bloqué dans les années 80. Et ensemble, ils vont décider d'organiser une soirée avec leurs anciens camarades. Et à cette soirée, ils rêvent d'invités notamment.
Emma Latour, c'était le grand amour entre vous deux, non? C'est elle qui t'a largué ou c'est toi?
Je sais plus.
Géraldine Fragonard, Frago la chevasse. Il paraît qu'elle portait des culottes comestibles.
Justine, Mélanie.
Laetitia.
Laetitia, t'avais pas vomi dans sa capuche?
Oui.
Si.
Et dans la liste des invités, il y a aussi Vincent Montluc.
Vincent Montluc.
C'est une légende ce mec-là. Un aspirateur à gonzesse.
Si le beau gosse vient, toutes les filles viendront.
T'as une idée de ce qu'on va lui dire au beau gosse, hein?
On va lui faire une offre. Tu pourras pas refuser.
Quelle offre?
Non, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est une réplique du parrain.
Mais concrètement, du coup, c'est quoi l'offre?
Mais y a pas d'offre. C'est une réplique du parrain, je te dis.
Je vais lui faire une offre qu'il pourra pas refuser.
Et on va lui dire ça?
Voilà. Alors c'est parti pour un road trip en deux roues d'ailleurs entre les deux copains pour aller convaincre les anciens camarades de participer à cette soirée. Tout ne va pas se passer de façon idyllique. Et puis entre Yann et Thomas, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Mais pour comprendre, vous allez être obligé de regarder les dernières minutes du film. Ce qui est un vrai rebondissement à la fin. Et au-delà de la comédie qui est portée alors magistralement par Pierre Rochefort, le fils de Jean Rochefort et Nicole Garcia et Pio Marmaille, Rémy Besançon renoue avec ses thèmes de prédilection, l'amitié, la famille, la nostalgie, la mort et ces instants de vie précieux qu'on collectionne chacun d'entre nous. Nos futurs n'est pas aussi réussi que Le premier jour du reste de ta vie.
T'es pas trop triste la fin? Parce que la fin du premier jour de ta vie est triste.
Non, ça peut pas être aussi triste que Le premier jour de...
Non,
c'est pas possible. En tout cas, si vous voulez passer une bonne soirée en famille, c'est sur France 4 qu'il faut se brancher Nos futurs à 21h. C'est sympathique.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Fin de partie en vue pour Debout les copains, car dans son bureau, dans un nuage dansant, Nico Saliagas se prépare, il arrive, mais il le sait. Avant de lui céder le micro, nous reviendrons ensemble sur sa matinale d'hier, marquée par les trois lapsus à la suite de David Doucan. Oui, vous avez bien entendu, trois à la suite.
Aïe, aïe, aïe.
Et le meilleur est à venir, le débrief de la matinale à suivre.
Il est 6h52. Il est 6h54, Mathieu Noël.
À l'heure de refermer la page de Boulet Copain et d'accueillir Nico Saliagas, ce n'est pas une musique guirette qu'il nous faut pour lancer le débrief ce matin, mais une musique digne de l'événement historique qui s'est produit hier dans la matinale d'Europe 1. Plus rare qu'une éclipse solaire ou qu'une bouteille de cristalline dans le frigo de Laurent Cabrol, un journaliste a réussi ce qu'on appelle au CSJ la triplette impossible. The Impossible Triplette. Non pas un, non pas deux, mais trois lapsus d'affilée. L'auteur de cet exploit, le truculent David Doucan, présentateur du journal de 8h, déjà connu des puristes par ses moyens mémotechniques borderline.
On dit Griezmann, hein. Je le dis bien Griezmann. Griezmann. Comme merguez, tu vois, grillaise.
David Doucan a franchi hier un nouveau cap. Alors évidemment, personne n'est à l'abri d'un lapsus. Ça arrive au meilleur, souvenez-vous Nikos.
Une bonne nouvelle dans le monde du foot, Zidane revient.
Zizi, Zizou. Reprend du service.
L'incident du Zizi qui revient. Mais là donc. Et c'est sans ça que l'événement est historique. Doucan a enchaîné trois lapsus quasiment de ce calibre, si j'ose l'audacieuse formule. Pourtant, rien ne laissait penser que ce lundi 20 mai resterait dans les mémoires. Avant le triple lapsus, c'était vraiment business as usual. Nikos draguait Céline D'Acosta, comme d'habitude, avec cette modernité qui fait trembler Fun Radio.
Salut Céline, tu danses ?
On y va ?
Hey !
C'est parti !
Tintintintin.
Je préfère ma pro.
Je crois que tu viens de me marcher sur la chaussure.
Ah, j'ai marché sur tes pieds.
Mince. Est-ce que tu peux me rendre mon doigt de pied ?
Quelle modernité ! On passait comme souvent un délicieux moment, quand soudain donc arrive David Doucan. Doucan, garçon d'ordinaire assez sûr de lui, puisque lorsqu'une stagiaire lui demande si on peut l'appeler David, il lui répond toujours
« On m'appelle le professionnel ».
Mais hier pourtant, question concentration, le professionnel n'était pas dans un grand jour. Tout a commencé, premier lapsus au sujet d'une pétition organisée par des féministes.
Les protestations d'associations féministes, une pétition.
Léger petit lapsus.
Non, pas du tout.
Oui, les pétitions, ce n'était pas très heureux, mais à ce stade, David pouvait encore s'en sortir honorablement en prétextant que sa langue avait fourché. Encore est-il fallu qu'il n'enchaîne pas sur un deuxième lapsus encore plus voyant, puisque concernant la star du foot, Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé a tout d'un coup rompu avec la tradition.
Kylian Mbappé a rompu avec la tradition de la langue de bois.
La carte de presse de David commençait à se liquéfier dans sa poche. Deux lapsus en une matinée, c'était déjà une prouesse susceptible de l'installer longtemps dans les bêtisiers de fin d'année, mais ça serait mal connaître David qui a décidé de porter l'estocade avec un troisième lapsus. Maestro ?
C'est Manuel Valls qui, vous le savez, aimerait devenir maire de la capitale catalane. Il lâche ses dernières forces.
Après, il lâche ce qu'il veut, hein ? En même temps.
Oh putain, je suis crevé, les mecs.
Nikos, vous saluerez pour moi le champion.
Bravo. David Doucan, vous le retrouverez à 8h sans lapsus ce matin.
On espère, oui.
Ou presque.
On attend un autre.
Merci beaucoup Mathieu Noël. Bravo pour cette verve et cette plume. Et Baroque, je vous souhaite un bon repos.
Merci, vous aussi. Enfin non, vous non. Bonne journée.
Oui, je suis venu dormir, je m'installe tranquille, j'ai un lit de camp. Bonjour Céline D'Acosta.
Bonjour Nikos.
Et bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour les amis.
Alors.
Eh bien alors.
Parlez bien devant le micro, je vous entends plus.
Qu'est-ce qui va se passer?
Oui papa.
Oui, c'est moi, je l'appelle papa le matin, ça va papa?
Non, soyons sérieux. Aujourd'hui, en ce moment, il y a pas mal de brumes et de brouillards. Ils vont se dissiper et ils vont laisser place à disons, souvent du soleil, notamment sur le nord, la Picardie, la Normandie, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, les Charentes, le bassin méditerranéen. Alors attention, du soleil sur une frange de 50 km dans les terres. Donc 50 km à partir du bord de mer. C'est vraiment la tranche littorale qui est ensoleillée. Si vous habitez la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la Vallée de la Loire, le Limousin, l'Auvergne, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et le Midi-Pyrénées, là vous êtes dans des secteurs où nous aurons bien sûr les brumes dont je parlais à l'instant, mais ensuite quelques rayons de soleil avec quelques éclaircies et donc quelques averses aussi, puisque vraiment ça ne sera pas franchement très beau. En ce qui concerne les températures maximales, entre 18 et 25 degrés, 18 degrés à Deauville, 19 à Lille, 20 degrés à Nancy, 21 à Paris et à Nantes, 22 à Lyon et 25 à Marseille.
Merci pour commencer, voilà, une petite mise en bouche avec Laurent Cabrol. On fera un autre point d'ici 30 minutes,
oui,
Céline D'Acosta.
Juste avant le journal de 7h30.